Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
7h41, et vous le savez, France Culture s'attache à analyser, à problématiser l'actualité, et notamment l'épisode que la France connaît ces temps-ci, celui des Gilets jaunes. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un historien, d'un sociologue, Pierre Birnbaum. Bonjour, vous
Bonjour.
Êtes professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment « Où va l'État ?», essai sur les nouvelles élites du pouvoir aux éditions du Seuil. Je vous ai invité parce que vous avez longuement réfléchit sur le rôle des émotions en politique. Et bien souvent, lorsqu'on évoque les émotions politiques, c'est pour les juger de manière assez sévère, de manière négative. Pourtant, les émotions sont-elles uniquement négatives en politique, selon vous ?
Tout au contraire, elles sont au cœur même du lien social. Elles façonnent le citoyen dans son rapport à sa nation. Elles le lient de manière très positive à l'État, puisque si le citoyen n'a pas une sorte d'investissement émotionnel à l'égard et de la nation et de l'État qui le régit, évidemment le lien social lui-même se détruit, et ce que les sociologues appellent le vide social se répand, laissant pointer ce que le Durkheim appelait lui-même l'anomie, c'est-à-dire au fond la perte de normes collectives. L'émotion est au cœur de ce que Durkheim appelait la communion républicaine, c'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement, s'il n'y a pas ce lien à l'État, ce lien à la nation, cette communauté imaginaire, pour parler comme Bénédicte Anderson, qui est au cœur, qui est un sociologue, un historien du nationalisme, peu importe les noms, mais au fond, on voit bien que les différentes dimensions de la vie politique, la nation, l'État, la citoyenneté, sont tous emprunts d'un rapport, d'un attachement. S'il n'y a pas ce sentiment d'une appartenance à un espace public, à un État, à un lien qui rattache les acteurs les uns aux autres et instaure entre eux une solidarité. Si la solidarité ne se construit pas précisément dans l'émotion, les solidarités impliquent une émotion, c'est-à-dire un rapport interactif, une interdépendance entre les personnes, un altruisme. Il y a de très beaux travaux sur l'altruisme, par exemple, récemment. C'est-à-dire que l'altruisme est un sentiment, c'est une forme de rapport à l'autre qui rattachent les uns aux autres. On a aussi tout un ensemble de concepts de type sociologique, comme la notion de groupe d'appartenance ou de groupe de référence. C'est-à-dire que s'il
Qu'est-ce
y a pas...
à dire un groupe d'appartenance ?
C'est-à-dire que si le groupe auquel on appartient, qui peuvent être un groupe primaire, c'est-à-dire une famille, un village, une organisation ouvrière, à son niveau le plus élémentaire, si tout cela se dissocie, si tout cela se désintègre, alors les acteurs sont perdus. Justement, il y a une sorte d'anomie, une sorte de destruction du lien social qui fait que les citoyens ne peuvent pas se reconnaître. Or, la nation, d'une certaine mesure, est aussi une sorte de groupe de référence. C'est-à-dire que les acteurs se rattachent à cette idée et ils ont besoin de se rattacher. Et au fond, ce qui se passe, et peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, dans la société française d'aujourd'hui, c'est que il y a à la fois une question fondamentale de justice sociale, de gestion de la solidarité entre les acteurs, qui est au cœur du mouvement de contestation et de mobilisation contemporain. Mais au-delà de cette justice sociale qui est absolument cruciale, dont il faut parler longuement, bien évidemment, elle se déroule à un moment, cette mobilisation se déroule à un moment où le lien social lui-même est contesté.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est contesté, ce lien social ? Est-ce que ça veut dire, par exemple, lorsque vous dites qu'il y a, il ne peut pas y avoir de société, finalement, sans émotion collective, est-ce que cela signifie qu'on ne peut pas dissoudre tout cela dans des calculs, dans des choses très contractuelles, très froides, Pierre Birnbaum ?
Alors, là encore, vous faites allusion à toute la théorie du choix rationnel. La sociologie, l'histoire, surtout la sociologie, a beaucoup travaillé sur la dimension utilitariste, instrumental de l'acteur. Au fond, chaque acteur, chacun d'entre nous, on calculerait son action en fonction des profits que l'on peut en tirer.
Voilà, c'est-à-dire, je suis une sorte de client, je suis pas citoyen, j'attends des choses de la collectivité, je veux être rémunéré ou en avoir pour mon argent.
Alors, c'était l'histoire, vous vous souvenez, de Munker Olson, enfin, il y a toute une tradition sociologique tirée un peu des modèles économiques qui analyse les actions des individus en fonction des biens dont ils peuvent être rétribués. Voilà. Alors cette vision utilitariste est extrêmement intéressante parce qu'elle montre, au fond, elle pose une très belle question. Pourquoi est-ce que les acteurs ne s'investissent que, lorsqu'ils peuvent en tirer des bénéfices individuels? Alors, c'est une longue tradition. Il y a eu énormément de travaux là-dessus, sur l'absence de syndicalisme, l'absence de grève, etc. Mais, à rebours, on peut très bien dire, et là encore, toute la sociologie contemporaine a été dans ce sens, il faut montrer comment l'action collective, l'engagement, répond aussi à des valeurs, répond à des mythes, répond à des croyances, répond à des émotions. Et il n'y a pas d'engagement dans une manifestation, dans une grève, dans une action collective, s'il n'y a pas en même temps une sorte de lien qui se construit entre les individus qui... au-delà de l'intérêt individuel, ont aussi un sentiment d'appartenir à un ensemble qui se mobilise et donc d'avoir une forme de solidarité sociale.
Mais alors, Pierre Birnbaum, est-ce qu'il y a de bonnes émotions et de mauvaises émotions? Est-ce que on peut dire, par exemple, que certaines crises sont salvatrices parce qu'il y a des émotions qui sont sacrées, tandis que d'autres seraient faites de passions mauvaises?
Comment en juger et au nom de quoi? Simplement, je pense pas que ce soit bon de s'engager dans ce type de discussion. Je pense que l'émotion est au cœur de la vie sociale et de l'histoire. L'émotion est au cœur de tous les événements, que ce soit les grèves, les coups d'État, la mort, l'engagement, le drapeau, les guerres, les manifestations, les enterrements, le très beau livre de Nicolas Mario sur les voyages du président en province. On voit bien l'émotion qui ressort de la vue du président au 19e siècle. L'émotion est au cœur de toutes les formes d'action collective.
Aujourd'hui, il y a un mot qu'on entend particulièrement, c'est le mot de colère. Les Français sont en colère, seraient en colère, certains Français. Qu'est-ce que ça suscite en vous, ce terme de colère et le rôle de la colère dans une manifestation, dans une insurrection, une crise, bref, appelez-la comme vous voudrez, celle des Gilets jaunes?
La colère me paraît une notion assez peu sociologique, d'une certaine manière. C'est une émotion. C'est une émotion qui peut verser très vite dans l'irrationalisme et qui peut s'éloigner très vite de toute forme de conscience des conséquences de l'action dans laquelle on s'engage. Je pense qu'une action colérique n'est pas forcément bien menée et qu'elle rate sa cible, on pourrait dire. Il est normal que des acteurs se révoltent, s'élèvent contre des mesures qu'ils perçoivent comme injustes. De là à entrer dans des colères, je dirais de manière très vulgaire que la colère peut être aussi très mauvaise conseillère et qu'elle emporte les acteurs, elle les incite à des actions qui ne sont pas forcément fonctionnelles. On retombe, si vous voulez, dans une psychosociologie à la noix, pardonnez-moi l'expression, du genre de Gabriel Tarde, de Gustave Le Bon, des foules.
Il faut rappeler qui ils étaient.
On est en plein 19e siècle, à la suite de Taine, on a une vision émotive des foules très négative. Les foules sont femmes, les foules sont féminines, les foules sont irrationnelles, et donc il faut les combattre, il ne faut pas que les acteurs se mobilisent. Bon, et il y avait quelque chose là-dedans quand même.
Mais alors, justement parce que lorsqu'on parle de colère aujourd'hui, dans cette crise des Gilets jaunes, dans la manière dont les ronds-points se sont formés, et il y a au moins une chose qui est prégnante, Pierre Birnbaum, c'est la fabrication de liens sociaux. On a beaucoup insisté là-dessus. Vous évoquiez, comme la plupart des sociologues, la dissolution du lien social. Est-ce que ce type d'épisode n'est pas justement un moment où une société, la société française, crée du lien social?
Alors, c'est la construction de nouveaux groupes d'appartenance qui sont très fragiles puisqu'ils ne sont pas ancrés dans des histoires collectives, dans des mémoires identiques, dans des sociabilités de long terme. Ce sont des groupes un peu éphémères tout de même qui permettent la création d'une sorte de sentiment d'action commune, de solidarité, d'interconnaissance, qui facilite l'interconnaissance et même les mariages et les histoires d'amour. Mais on a donc là un phénomène, un lien social qui se crée, mais c'est un lien social relativement fragile, pour ne pas dire fictif, je n'irai pas jusque-là, mais fragile, qui est lié à un type d'action et qui peut se dissoudre très vite peut-il s'institutionnaliser? Peut-il se construire dans la durabilité à partir d'une manifestation tout de même relativement épisodique et liée à des revendications relativement sectorielles qui ne sont pas liées à une vision de la société, à un engagement collectif? Je dirais que l'entrée dans un syndicat, le fait de militer dans un parti politique, de travailler dans un syndicat sur un très long terme, sur des années, sur des mois, crée un lien social beaucoup plus structuré, beaucoup plus fort, et peut-être limite la colère aussi, et engage à des actions qui sont peut-être probablement plus fructueuses dans la négociation collective qui peut s'engager.
Et alors, à contrario, est-ce que, justement, ce type de crise peut tendre à supprimer, dévorer du lien social, parce qu'on aurait affaire, par exemple, à 2, 3 Frances, enfin, autant de Frances que vous voudrez, des Frances qui ne se comprennent plus, Pierre Birnbaum?
Ça, nous allons le voir. Des Frances qui ne se comprennent plus. Je pense qu'il faut être très prudent. Là, on ne sait pas grand-chose sur ce qui se passe. Il va falloir attendre 20, 30 ou 40 ans pour avoir des travaux de sociologie et d'histoire pour savoir qui se mobilise, à partir de quelles valeurs, à partir de quel type de valeurs, à partir de... Est-ce que c'est la religion, la sociabilité, la classe sociale, la strate sociale? Est-ce que c'est les villes contre les campagnes? Est-ce que c'est le rural contre l'urbain? Est-ce que c'est le petit patronat qui... Quel type, au fond, de valeurs ont chacun de ces acteurs? Est-ce qu'il les réunit dans ces ronds-points ou dans ces actions parfois violentes dans lesquelles ils s'engagent parfois et pas tous? Il faut, je pense, rester très prudent pour l'instant. Les analyses sont difficiles, je pense. On est vraiment sur le guidon. On a beaucoup de mal à dire des choses, à porter des jugements, à s'engager dans des analyses qui font sens, je pense.
Et alors, toujours, quand on visite ces émotions qui sont à l'œuvre dans l'histoire, Pierre Birnbaum, le rôle de la violence. Là aussi, qu'est-ce que l'on peut dire dans une perspective historique, sociologique, sur cette violence qui naît parfois dans les mobilisations collectives?
Alors, la violence est au cœur de l'histoire française. On pourrait même dire que par beaucoup d'aspects, ce que les historiens appellent les guerres franco-françaises sont marquées, sont ancrées dans des rapports conflictuels extrêmement durs, pour s'en tenir à l'époque moderne et contemporaine, de la Saint-Barthélemy à la Commune, en passant par les tentatives de coup d'État, 1851, la Commune. On est sans cesse confronté, et jusqu'à l'époque contemporaine, les grèves de 1953, la France et les luttes sociales et politiques sont parsemées de recours à la violence la plus grande. Prenez Charonne, on a tout de même 10 morts, vous voyez, 10 morts.
Il faut rappeler Charonne, c'est un épisode pendant la guerre d'Algérie.
Nous sommes en 1861, et les personnes qui manifestent le font dans une innocence absolue, sans aucun caillou, sans aucune pierre, sans aucun bâton, rien du tout. Elle manifeste contre l'extrême droite qui veut freiner la marche vers l'indépendance. Et on se trouve avec une police qui réprime une violence extrême. Le livre de Verpe est absolument brillantissime. Et on voit 10 morts et une émotion, donc une manifestation pour protester contre cette violence. 10 morts en quelques minutes. Et une manifestation qui rassemble des centaines de milliers de personnes dans le silence. Le silence aussi est une forme d'émotion. Les historiens ont fabuleusement travaillé sur l'émotion depuis maintenant 10 ou 20 ans en France. Vous avez les 3 livres dirigés par Alain Corbin et Vigarello. Vous avez tout un ensemble de productions intellectuelles qui mettent l'émotion au cœur de leurs recherches.
Pierre Birnbaum, on a l'impression d'avoir affaire à 2 discours concurrents. Un discours qui évoque la violence de certains manifestants, l'autre discours qui évoque la violence policière. Est-ce que ça, c'est classique?
Les deux se répondent. Pas nécessairement, d'ailleurs. On peut manifester sans passer à la violence, et on peut maintenir l'ordre sans non plus avoir recours à la répression. Au fond, la violence policière est probablement l'expression d'un désarroi de l'État. Lorsque l'État est légitime, il n'a pas besoin d'utiliser la force. S'il utilise la force, c'est qu'il est contesté dans sa légitimité et dans son autorité. Alors, l'un peut renvoyer à l'autre, mais l'un peut être indépendant de l'autre.
Il y a aussi une légitimité qui semble contestée, là aussi toujours par certains manifestants, c'est la légitimité des urnes, puisque lorsqu'on appelle par exemple à la démission du président, alors est-ce qu'on en a raison d'essayer d'aller dans ce sens? Est-ce que par exemple le fait d'invoquer la manière dont l'élection présidentielle s'est déroulée avec un second tour face à une candidate d'extrême droite, est-ce que ces arguments-là sont des arguments qui sont récurrents dans l'histoire de la République française?
Ils sont récurrents parce que la République française et la démocratie représentative a eu beaucoup de mal à s'instaurer en France. Elle a été souvent combattue aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. L'idée que le suffrage universel soit légitime, que ce ne soit pas des minorités qui décident de la majorité, que ce soit un parti, une classe, a longtemps été contestée en France. Je pense que il faut s'en tenir fermement à cette idée du suffrage universel. Il faut défendre l'idée que le peuple tout entier ne se réduit pas à une catégorie qui prétend le représenter et que le passage par les urnes est la sanction légitime à laquelle on doit respecter. Prenez l'interview récente de Laurent Berger avant-hier. Il martèle
le responsable
cette idée,
syndical de la
CFDT, qui est le premier syndicat, répétons-le, qui est aujourd'hui le premier syndicat en force de la société française. Donc il représente tout de même des millions de personnes et en son nom, Laurent Berger martèle l'idée que le respect de la République et du suffrage universel est absolument indispensable et qu'il n'est pas question de remettre en question l'élection de M. Macron dans la mesure où précisément il a été élu.
Soit, mais ce que l'on entend aussi Pierre Birnbaum dans le même temps, c'est que une élection tous les 5 ans, c'est insuffisant. Avec le passage au quinquennat, il y a là aussi une concordance des temps entre l'Assemblée nationale et la présidence de la République. Est-il possible, dans des démocraties modernes, avec des nouvelles règles, les réseaux sociaux, est-il possible de se contenter d'une élection tous les 5 ans?
Écoutez, moi je m'en tiendrai là, quitte à ce qu'il y ait des élections locales, que l'on crée effectivement tout un ensemble de référendums locaux, de mécanismes de participation des citoyens au niveau local, au niveau départemental. On peut imaginer toutes sortes de mécanismes de participation, mais l'élection est un moment de communion républicaine. Et une fois tous les 5 ans, je pense que ça suffit. Une fois tous les 4 ans, peut-être. Je crois que c'est un bon rythme. Et ensuite, la majorité en place, légitimée par le vote de la nation tout entière, et de non pas d'une seule de ces catégories, eh bien, on lui laisse sa chance de gouverner et on ne remet pas en question sa légitimité, quitte à manifester, bien évidemment, contre tel ou tel type de mesure, sans pour autant s'en prendre à la légitimité de l'État.
Et le référendum d'initiative citoyenne, est-ce que cela pourrait être une solution dans ce contexte-là?
Écoutez, là encore, je vais me cacher derrière Laurent Berger, qui, lorsqu'on lui a posé la question
avant-hier... Ce responsable syndical de la CFDT.
Oui, je vais me cacher derrière lui. Il a fait la moue. C'est-à-dire, oui, pourquoi pas, bien sûr, mais il a pris une position relativement critique à l'égard de cette revendication qui, pourquoi pas, peut être mise en place ici ou là, mais n'est certainement pas la panacée dont on rêve.
Pierre Birnbaum, vous êtes historien et sociologue, vous avez notamment publié « Où va l'État ?». On va continuer à évoquer cette crise des gilets jaunes et on va tenter un décryptage politique pour comprendre s'il y a un rôle important des extrêmes, de l'extrême droite notamment. Nous serons en compagnie de Jean-Yves Camus, il est chercheur associé à l'IRIS et directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. Il sera dans ce studio dans une 20aine de minutes. Nous sommes en compagnie de Pierre Birnbaum, historien et sociologue, professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Vous avez notamment publié « Où va l'État ?», essai sur les nouvelles élites du pouvoir aux éditions du Seuil. Et vient de nous rejoindre Jean-Yves Camus. Bonjour, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques. Jean-Yves Camus, une réaction par rapport à ce que vient de dire Frédéric Saïd sur donc les décisions du pouvoir annoncées hier par Édouard Philippe?
Deux choses me frappent. La première, la référence constante à cette manifestation du 30 mai 1968 que j'ai vécu, pas très vieux certes, mais suffisamment pour me souvenir que nous voulions deux choses. Quand je dis nous, c'est ceux qui, comme moi, venaient d'une famille gaulliste et qui étaient attachés à l'ordre, mais aussi à la personne du général de Gaulle. Nous voulions le retour à l'ordre, mais aussi la continuation de l'action du général de Gaulle, dans un contexte particulier qui n'est pas celui d'aujourd'hui, qui est celui d'un parti communiste dont le candidat en 1969 faisait encore 20% des voix à l'élection présidentielle, d'un syndicalisme beaucoup plus fort qui avait la main sur les grèves, leur début, leur fin, et un véritable risque de basculement du pouvoir dont on savait alors que précisément il profiterait non pas tant à l'extrême gauche qui était à la manœuvre, mais au Parti communiste. Ce type de schéma, il n'est plus reproductible aujourd'hui. La seconde chose, c'est que j'entends beaucoup parler des casseurs de leurs fichiers, de la répression à leur encontre, mais moi je me pose une question depuis le début. C'est qui ces casseurs? Ils ne sont jamais nommés. Est-ce que ce sont des casseurs d'opportunités, c'est-à-dire des gens qui viennent à la fin des manifestations pour piller sans objectif politique? Il y en a. Est-ce que ce sont des éléments politisés? Si oui, ils sont politisés de quel côté? À quel mouvement appartiennent-ils? Est-ce qu'il y a derrière les violences qui émaillent les manifestations des Gilets jaunes quelque chose qui est de l'ordre du construit, avec des gens qui dictent une stratégie, établissent un plan de manifestation, d'action dans ces manifestations, des gens à qui ce mouvement peut profiter? On a l'impression d'une anonymité du casseur, si vous voulez. Or, en politique, si on ne désigne pas celui qui est l'ennemi, on perd. On ne peut pas être toujours sur la figure du casseur. Il faut à un moment donné dire, ce mouvement, il a été pris en main par des gens qui s'opposent aux règles démocratiques, c'est X, Y ou Z.
Je vous propose justement de remplir les blancs, si vous avez la possibilité de le faire.
On va le tenter.
On va le tenter, en tout cas, on est là pour ça. Pensez-vous aujourd'hui qu'on est sorti d'une crise, de la crise des Gilets jaunes, pour arriver dans une crise sociale, bien dans une crise politique, avec donc une récupération du mouvement, récupération partielle, totale. Bref, je vous laisse remplir les blancs.
Tout d'abord, je crois qu'il faut se garder de focaliser le regard sur ce qui se passe à Paris et beaucoup le porter sur ce qui se passe en province, en nous souvenant que au tout début du mouvement, quand on voyait vraiment émerger une sorte d'ovni politique, c'était la presse quotidienne régionale qui rapportait au plus près ce qui se passait et qui avait identifié la première, les leaders locaux, ceux que nous ne connaissions pas, parce qu'à Paris, il n'y avait pas de leader local. C'est un mouvement qui a commencé précisément comme une protestation sociale et qui a commencé, d'après ce que j'ai pu voir en tout cas, donc tout ça est très partiel, comme un mouvement de gens qui travaillent, qui sont des ouvriers, des employés, des patrons de TPE. Vous savez, ces TPE qui sont toujours sur le fil du dépôt de bilan.
Très petites entreprises.
Voilà, très petites entreprises qui sont toujours sur le fil. Et ces gens travaillent mais ont un pouvoir d'achat qui est réduit, en clair ce sont des smicards, pour qui la moindre augmentation de n'importe quoi fait passer de « j'ai la tête un tout petit peu au-dessus de l'eau » à « j'ai la tête sous l'eau ». Bien. Au début, revendication sociale, avec des slogans plutôt de gauche, j'ai trouvé, pour la justice fiscale, pour le rétablissement de l'ISF, pour les droits sociaux, les retraites, les services publics, puis au fur et à mesure, la sociologie, me semble-t-il, a changé, parce que il y a un point tout bêtement matériel quand vous travaillez, que vous êtes ouvrier ou employé, vous pouvez prendre beaucoup de temps sur vous pour être sur les ronds-points ou être dans les manifestations, mais à un moment donné, vous êtes obligé de décrocher, ou du moins de décélérer. Donc on a là une modification avec davantage de précaires, davantage d'exclus, et on a également une modification du fond des revendications. Ces revendications, aujourd'hui, elles sont d'ordre tellement proliférant qu'on peut véritablement parler, je l'ai déjà dit plusieurs fois, d'idéologie de la prolifération des droits. C'est-à-dire que, curieusement, on a à la fois des gens dont on dit qu'ils sont plutôt de droite parce qu'ils ont une aspiration à renverser la table et la démocratie libérale, mais qui, en même temps, nous réclament non seulement des droits économiques, sociaux, politiques, mais encore qu'il les réclame immédiatement. C'est un peu « nous voulons tout, tout de suite » tout de même. Il y a un raccourcissement du temps politique qui me semble être un des phénomènes les plus marquants de notre temps. On a d'un côté, dans un certain nombre de pays plutôt autoritaires, des dirigeants qui s'arrangent pour pouvoir travailler sur le temps long, Vladimir Poutine, Erdogan, Kaczynski, Orban, etc. Et dans nos démocraties libérales, l'une des principales fragilités, c'est qu'à peine élu, Le chef de l'État ou chef de gouvernement se trouve face à une injonction de délivrer tout de suite. Il ne le peut pas.
Pierre Birnbaum, votre réaction par rapport à ça, par rapport à des revendications, par rapport à la transformation ou pas d'un mouvement social?
Écoutez, je voudrais revenir à notre discussion de tout à l'heure et aux émotions. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu une manifestation qui s'appelait « Jour de colère ». Alors, Vous avez commencé cette interview précisément à partir du terme de colère. Y a-t-il une colère aujourd'hui? Et je pense que on est passé d'un type de manifestation à tout à fait autre chose, puisque dans Jour de colère, il y avait une dimension culturelle qui l'emportait.
Rappelez-nous ce qu'était Jour de colère.
C'était une protestation contre le mariage pour tous. C'était au fond les organisations catholiques qui se mobilisaient pacifiquement, sans aucun pavé, contre une remise en question au fond du mariage et de la famille comme socle de la société chrétienne, traditionnelle, de toujours. Et alors, dans Jour de colère, on a vu subitement surgir aux marges, en fin de parcours, des organisations clairement identifiées à l'extrême droite, à côté desquels, clairement identifiés, figuraient des individus qui venaient, comme on dit aujourd'hui de manière métaphorique, des banlieues. C'est-à-dire des amis de Dieudonné, des personnes qui venaient au fond des quartiers défavorisés. Et c'est cette espèce de conjonction entre deux groupes qui a donné à Jour de colère une sorte de dimension tout à fait spécifique, à la fois culturelle, et puis à la fois d'extrême gauche, et puis d'un extrême venant, mettant en question, au fond, la vie des indigènes, des choses comme ça. Aujourd'hui, pas du tout. De nos jours, cette dimension catholique prédominante dans Jour de colère a disparu. Ce sont des revendications sociales. Les organisations d'extrême droite ne sont pas présentes en tant que telles. Si vous regardez le site de la Horde, on voit très bien que
Site de la Horde.
C'est un site qui s'appelle, sur le web, qui s'appelle La Horde. D'accord. Et qui, de manière tout à fait étonnante, publie des photos des dirigeants de l'œuvre française, de l'Action française, de Rivarol, qui sont avec des gilets jaunes dans les manifestations aujourd'hui. Donc, les individus sont là. Mais ils ne sont pas là en tant que organisation militante d'extrême droite, et ça fait toute la différence.
Alors justement, parce que là, il y a eu une couverture de Paris Match qui a été largement commentée, puisque elle mettait en scène un gilet jaune qui n'était pas n'importe quel individu, puisqu'il s'agissait d'Hervé Rissen, qui est, lui, un négationniste connu, autrement dit, une personne très marquée à l'extrême droite, voire à l'ultra-droite. Jean-Yves Camus, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mesurer le rôle, l'importance de l'ultra-droite, de nazillon, bref, vous allez les appeler comme vous voudrez, dans le mouvement des Gilets jaunes?
Pierre Birnbaum vient de le dire, ces mouvements d'extrême droite ne sont pas à la manœuvre. Ils ne l'ont pas été au début, ils ne le sont pas aujourd'hui. La mouvance qu'on qualifie d'ultra-droite, c'est-à-dire, pour faire court, tout ce qui est à droite du Front National et qui se distingue de lui par le refus absolu de la participation même au système démocratique, est venu voir, dès le début du mouvement, ce qui se passait chez les Gilets jaunes et quel profil était possible d'en tirer. Mais cette mouvance n'a pas accru le nombre de ses militants. Quand on regarde, par exemple, le nombre de personnes qui allaient au contact des forces de l'ordre, après pratiquement chacune des manifestations pacifiques contre la loi Taubira, on était à 200-300, on est aujourd'hui à 200-300 à peu près. On a un comptage assez précis sur ce point-là. Et pas toujours en première ligne. Donc l'hypothèse d'une mouvance d'ultra-droite qui aurait pris une importance exponentielle et qui serait à la manœuvre est à rejeter. Il y a des tentatives de récupération. Il y aura ce 19 janvier à Paris un grand meeting public rassemblant Alain Soral, Hervé Rissen, que vous venez de citer, le directeur de Rivarol, que vous venez de citer, Yvon Benedetti, l'ancien dirigeant de l'œuvre française. Bon, écoutez,
C'est un meeting qui...
C'est un meeting qui est annoncé. Ensuite, les pouvoirs publics tireront les conséquences qu'elles veulent.
Il a quel thème ?
Il a quel thème ? C'est la révolution qui vient. C'est la révolution qui vient, avec quand même une forte tonalité. Si elle était nationale, ce serait beaucoup mieux, révolution nationale. Voilà, ça va faire quoi ? Quelques centaines de personnes.
Vous voulez dire quoi ? Vous voulez dire que finalement, on a affaire toujours aux mêmes personnes dans ce type de violence, de fin de manifestation ?
Mais, la rhétorique complotiste, le renouveau de l'antimaçonnisme, qui est assez visible dans les manifestations, l'ensemble des slogans qui se réfèrent plus ou moins vaguement à ce thème de l'oligarchie qui est en train de devenir majeur dans les manifestations. Tout cela ne touche pas que les militants d'ultra-droite et les adeptes d'Étienne Chouard. Cela touche aussi...
Étienne Chouard, c'est un professeur, là, il faut le présenter.
Étienne Chouard est une figure importante parce que c'est un professeur qui enseigne à Marseille, qui a commencé à faire parler de lui en 2005 autour du référendum sur le traité constitutionnel européen dont il était un détracteur et qui est rapidement devenu, sur Internet en tout cas, une des références des gens qui ont voté non. Enfin, pas tous, j'ai voté non, je n'ai jamais adhéré aux thèses de Chouard. Et qui ensuite est passé lentement à autre chose, c'est-à-dire à une contestation d'ensemble de la démocratie participative dont il juge qu'elle est en fait une démocratie à abolir parce qu'il ne doit pas y avoir de participation. Le peuple doit gouverner en direct. Donc, il y a à un moment donné, si vous voulez, des arguments complotistes qui portent au-delà, et c'est peut-être ce qu'on a sous-estimé, du cercle des convaincus, soit des dieudonistes habituels, soit des soraliens qui vont sur le site d'Égalité et Réconciliation, soit des adeptes de l'œuvre française qui sont quand même pas des millions. Et on a peut-être raté là un épisode qui est cette culture se diffusant sur les réseaux sociaux qui, naturellement, à mon avis, lorsqu'elle met en cause le pouvoir parce qu'il est détenu par une petite frange d'oligarques qui tire les ficelles, tombe, j'allais dire, d'elle-même dans le complotisme.
Et alors, justement, au sujet des thématiques qui sont aujourd'hui présentes en France, vous avez un exemplaire de Rivarol, Pierre Birnbaum. Rivarol qui est une publication d'ultra-droite, puisqu'elle est donc située plus à droite que le Front National, avec, je ne suis pas la ligne éditoriale de Rivarol chaque jour, mais récemment une ligne très hostile à Marine Le Pen, avec une couverture sur Emmanuel Macron.
On voit à travers Rivarol d'autres publications l'antisémitisme traditionnel se réveiller. Rivarol titre à la une « Macron, l'homme lige du lobby juif ». Donc ça paraît, c'est la une du journal. Mais ce thème-là, qui ponctue malheureusement un certain nombre d'épisodes de la société française, se concentre dans un thème qui m'est familier, qui est celui de la République juive. Si vous regardez le site sur le web « Démocratie participative », en toutes lettres, c'est indiqué « Abat la République juive ».
Quel est ce site ?
Les métèques dehors.
Démocratie participative, Jean-Yves Camus.
C'est un site assez lu par les manifestants et qui est attribué par un individu à la fois antisioniste et négationniste pathologique qui s'appelle Boris Lelay, que la police recherche actuellement parce qu'il est censément réfugié au Japon, comme réfugié politique, dit-il, et qui est en réalité un de ces antisémites pathologiques qu'on trouve à chaque génération, mais qui trouve un écho précisément sur ces thèmes-là, sur ce thème-là.
Et Pierre Birnbaum, ça c'est une rhétorique assez familière pour vous. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « Le peuple et les gros ». Et ce sont des logiques qui sont à l'œuvre dans la société française depuis de nombreuses décennies.
Traditionnellement, à travers tout le 19e siècle, on voit se lever des mouvements qui dénoncent la mainmise supposée des Juifs sur la République française qui détruirait le lien consubstantiel à l'égard du catholicisme. Ici, le lien avec le catholicisme n'est pas vraiment clair. C'est au contraire le lien avec l'oligarchie, l'argent. Et on voit des caricatures qui sont tirées carrément de Drummond, où vous avez par exemple un Juif qui est derrière un noble qui lui-même chevauche un paysan, c'est-à-dire que c'est le juif est au sommet de la hiérarchie et exploite l'ensemble des catégories sociales. Il y a une sorte de retour à des visions imaginaires tirées du plus profond de la société française qui inquiètent. Reste à savoir si elles sont très répandues, combien de personnes elles touchent, elles n'en existent pas moins.
Alors, en tout cas, on voit que dans les manifestations, elles sont ultra, ultra marginales. Aujourd'hui, Jean-Yves Camus, est-ce que l'on peut mesurer la prégnance de ces idées? Il y a eu une scène de Quenel à Montmartre, mais cette scène de Quenel, que peut-on en tirer?
Il y a eu un certain nombre d'incidents. Vous citez effectivement la quenelle effectuée à Montmartre. J'ai pour ma part retrouvé fortuitement lors de la manifestation de samedi quelques soraliens qui m'ont fait savoir que mon appartenance religieuse n'était pas la bienvenue dans leur paysage. Mais enfin, tout ça, ce sont des individus dans une foule qui compte plusieurs dizaines de milliers de personnes et incontestablement, ça n'est pas le cœur de la mobilisation. Je pense qu'il y aurait une grande maladresse politique. Je ne parle pas simplement de la vérité des faits, mais il y aurait une grande maladresse politique à vouloir évacuer le mouvement des Gilets jaunes et tout ce qu'il fait remonter à la surface par le discrédit que jetterait sur le mouvement la présence indubitable de personnalités d'extrême droite. Autrement dit, c'est pas parce qu'il y a cette manifestation du 19 janvier qu'on peut d'un trait de plume dire « Écoutez, Français, la preuve que ce mouvement est intrinsèquement antisémite et anti-républicain, c'est qu'il y a 500 personnes qui se réunissent pour écouter Soral. » Ça ne marchera pas.
Même chose pour la thématique anti-maçonnique. Alors, cette thématique, on l'a vu, à ma connaissance, sur un péage avec une sorte de graffiti. Est-ce que de là, on peut en déduire qu'on a affaire à un mouvement anti-maçonnique?
Alors, on la voit sur des petites pancartes. Moi, je me suis retrouvé samedi, en fin de manifestation, du côté de l'avenue des Champs-Élysées, à côté d'une dame qui devait avoir la cinquantaine, et qui portait une petite pancarte Macron franc-maçon. Alors, sur le fait lui-même, je vous être strictement incapable de répondre, et que c'est, à mon avis, parfaitement anecdotique. Et cette dame était entourée d'un petit groupe assez divers du point de vue de l'âge, de l'origine. Et dans la discussion qui s'en est suivie, je me suis aperçu qu'en fait, tout le monde était d'accord dans ce petit groupe pour dire que le président de la République était franc-maçon, mais était strictement incapable de dire ce qu'était un franc-maçon. C'est-à-dire que tout le monde se disait entre soi, mais il faut aller sur Internet voir que les francs-maçons dirigent tout. Oui, mais c'est quoi un franc-maçon? Ben, un franc-maçon, c'est tout simplement pour ces gens-là ceux qui dirigent. Point.
Et ça aussi, donc la thématique de l'anti-maçonnisme, Pierre Birnbaum, elle est tout à fait traditionnelle dans la presse d'extrême droite fin du 19e, début 20e.
Elle est constante. C'était au fond l'un des ennemis dénoncés par Maurras, enfin, entre les protestants, les francs-maçons, les juifs, etc. Je crois que ce qui vient d'être dit est essentiel. Ces problématiques sont présentes, elles ne constituent pas le cœur du sujet. Si vous me laissez ajouter un mot, je pense que le cœur du sujet, il est lié, ça ne va pas vous étonner, à l'interprétation qu'on a de l'État et du personnage d'Emmanuel Macron. Je pense que on a cité tout à l'heure De Gaulle et la manifestation de 68. Notre président de la République ne peut pas prétendre à incarner le corps mystique du roi, le corps mystique de l'État. À la fois dans son corps, il n'a ni le corps mystique, je dirais, de Gaulle, ni le corps corpulent de Hollande. Il ne suscite pas une identification des citoyens par sa présence, par sa dimension personnelle. Il y a quelque chose là qui a fait bouger, qui est de l'ordre du déclin de l'État. Au fond, il ne représente pas un État puissant. Et c'est peut-être là le nœud du problème, c'est peut-être là où se trouve au fond la difficulté la plus grande, celle de rattacher les citoyens à un État dans lequel ils se reconnaissent.
Bon, ça c'est votre interprétation, la vôtre Jean-Yves Fiabu, parce que c'est toujours compliqué d'interpréter un corps mystique, un corps physique.
La mienne est un peu différente, je crois que cela fait deux fois, 2002 et 2017, que l'élection présidentielle est parasitée par la présence au second tour du Front National. Je m'explique. 81% pour Jacques Chirac en 2002. Nous savons tous que 81% des Français ne plébiscitaient pas Jacques Chirac. Emmanuel Macron a gagné en 2017 par 66% des voix. Incontestablement, sa victoire est large et c'est une victoire d'adhésion. Mais tout de même, il y a une ambiguïté dans ces 66%. C'est ces 66% pour lui, dont une fraction qui a voté pour lui, pour voter contre Marine Le Pen. Donc il n'avait pas, dès le départ, les mains libres, il n'avait pas nécessairement toute l'adhésion, peut-être qu'il pensait, au programme très clair qu'il avait énoncé. Lui, il est, me semble-t-il, dans quelque chose qui est éminemment louable, c'est la volonté de faire, quitte à le faire sur un seul mandat, la totalité des réformes qui n'ont pas été entreprises avant lui. Il pense qu'il y a une urgence et il préférera sans doute concentrer ses efforts sur un quinquennat en aboutissant sur les réformes principales que de faire traîner sur deux quinquennats sans véritablement donner le grand bouleversement qui est, à mon avis, son horizon.
Jean-Yves Camus, autre thématique que l'on trouve aujourd'hui, est-ce que l'antilibéralisme pourrait permettre une jonction entre, disons, une partie de l'extrême gauche et une partie de l'extrême droite? Est-ce que ça, c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Qu'est-ce que vous observez?
L'antilibéralisme pourrait permettre cette jonction, mais la question identitaire, pour l'instant, l'interdit.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que sur l'opposition au fonctionnement de l'Union européenne, sur l'opposition à la société marchande, sur l'opposition aux réformes libérales ou ultralibérales, il peut y avoir accord entre la gauche radicale et une partie de la droite non libérale, voire au-delà. Mais vient aussitôt parasiter le paysage la question de l'immigration et de la citoyenneté. Jean-Luc Mélenchon, incontestablement, est dans une critique radicale du libéralisme qui peut rejoindre des critiques venant de l'autre bord, mais lorsqu'il s'agit de déterminer qui est français, il ne veut pas instaurer un régime de droit différencié selon que vous êtes, entre guillemets, français de souche ou que vous venez d'ailleurs. Il est sur la Méditerranée creusée de civilisation, c'est pas franchement l'optique de Marine Le Pen. Donc attention à cette vision de la société, du spectre politique en fer à cheval, qui me semble quand même évacuer ce qui va faire l'élection européenne et, me semble-t-il, le débat des années à venir, c'est-à-dire la question de l'identité.
Et alors, justement, si l'on prend cette question de l'identité, parce que, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, la thématique identitaire n'a pas été présente dans cette manifestation, dans cette crise des Gilets jaunes. Vous avez évoqué de l'anti-maçonnisme, on a évoqué, mais alors vraiment de manière extrêmement homéopathique, des éléments anti-juifs. Est-ce qu'on a affaire à des individus qui sont tout simplement des individus opportunistes, qui se sont greffés à une mobilisation beaucoup plus ample?
Ah oui, d'autant plus qu'on a bien vu comment, au moment de la signature du pacte de Marrakech, le Rassemblement National et un certain nombre d'autres mouvements ont essayé d'instiller dans la mobilisation des Gilets jaunes la question de l'immigration, en leur disant, grosso modo, votre colère est saine, mais elle évacue tout de même une dimension que vous ne prenez pas en compte et qui est fondamentale, c'est celle de l'immigration, parce que l'immigration, ça coûte cher, donc le gouvernement est obligé d'y consacrer des sommes que, par ailleurs, il pourrait consacrer à autre chose, et il est obligé de vous ponctionner pour payer la facture de l'immigration. Ça n'a pour l'instant pas fonctionné. Donc, non, au départ, c'est pas une thématique identitaire qui est au cœur de la mobilisation des Gilets jaunes. Et moi, je trouve d'ailleurs que, à certains endroits, cette mobilisation est plus diverse au plan de l'origine des gens qui sont sur les ronds-points ou dans les manifestations qu'on a bien voulu le dire. Et c'est pas entièrement quand même une manifestation de petits blancs en colère, c'est plus que ça.
Comment une telle manifestation peut-elle se solder? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité de sortie de crise, Pierre Birnbaum?
Écoutez, là, il faudrait regarder le marc de café.
Le marc de café du passé, peut-être aussi.
Je ne vois vraiment aucune solution, puisque les grandes crises antérieures, moi je n'en vois pas pour l'instant en tout cas, les grandes crises antérieures ont toutes été conclues par des négociations collectives. Prenez 36, prenez 68, il y a Grenelle, il y a Matignon, on se réunit, on discute, et puis il y a des syndicats, des partis qui discutent avec le pouvoir, avec l'État et avec le patronat. Ce qui est frappant, c'est l'absence du patronat dans la dénonciation. Le patronat n'est pas là.
C'est vrai.
Le patronat est absent, donc on demande des mesures fiscales, on demande des avantages sociaux. À qui? C'est au patron, normalement. C'est la lutte sociale. Et en fait, on s'adresse à l'État. Mais l'État n'est pas là. Et l'État est relativement impuissant à gérer tout cela. Et là, on retrouve aussi l'exceptionnalisme français. On a besoin de l'État et on s'oppose à l'État. Et en fait, on passe à côté de véritables négociations, de la régulation qui passe par le rapport entre syndicats et patronat.
Même question, Jean-Yves Camus.
Écoutez, à ce jour, je ne vois pas plus de solutions, puisque l'allocution du Premier ministre hier a été de prôner l'ultra-fermeté. Le ministre de l'Intérieur l'avait dit auparavant, l'ultra-fermeté contre l'ultra-violence. Sauf que concrètement, On aura peut-être la réponse samedi soir prochain. Je ne vois pas comment cela se traduit, sinon par une augmentation de la répression des actes délictueux, ce qui est tout à fait légitime, mais qui peut, en contrepartie, causer une poussée de violence supplémentaire et paroxystique. Donc je ne vois pas actuellement comment on sort de cette crise.
Ou un problème de protection des libertés publiques, comme le syndicat de la magistrature s'en est ému ce matin. Merci Pierre Birnbaum, merci Jean-Yves Camus.